Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche, c'est vous, grand témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Maître Marcel Yabili. Il est avocat, promoteur d'industrie, artiste et écrivain. Maître, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et avec vous, dans notre entretien, on va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à travers le monde grâce à notre site internet www.radiocapi.net. Vous allez bien, Maître Yabili?
Oui, très bien, madame.
Alors, dans notre entretien avec vous, on va vous présenter, comme je l'ai dit, hein, auprès des auditeurs de Radio Capi. Alors, vous allez nous parler de votre parcours au barreau.
Oui,
45 ans.
45 ans comme juriste, et cela m'a amené dans plusieurs secteurs du droit, l'enseignement universitaire, le barreau, juriste d'entreprise et conseil juridique de grandes entreprises, et aussi des publications scientifiques de droit.
Vous êtes également promoteur d'industrie.
Oui, je suis l'un des rares Congolais à avoir créé une industrie pour un produit qui n'a jamais été réalisé au Congo. Et je suis très fier de l'avoir réalisé, surtout pour montrer qu'on peut quand même faire de l'industrie, même si on a fait du droit.
Alors, les détails, c'est tout à l'heure. Dans cette émission, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Lubumbashi.
Oui, je suis né à Lubumbashi, à la commune Kamalondo, en 1945. Je suis né le lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai fait toutes mes études à la cité.
Primaire, secondaire.
Primaire, secondaire.
Qu'est-ce que vous avez fait aux humanités comme
Les humanités, je les ai faites. À l'époque, on faisait des humanités classiques calquées sur le programme belge. Ce qui fait que, entre autres, j'ai dû apprendre le flamand parce que, à l'époque, les élites devaient connaître le flamand pour être des magistrats.
Et vous le parlez couramment ?
Non. Ce n'est pas la langue qui est importante. Hein. C'est plutôt la possibilité de passer d'une langue à une autre, et ça vous donne des facultés de comprendre le prochain. Parce que si vous pouvez passer d'une langue à une autre, vous pouvez avoir l'humilité, la patience, n'est-ce pas, d'écouter quelqu'un, d'essayer de comprendre ce qu'il fait. Et ça m'a beaucoup servi. J'ai fait aussi du latin, du grec, et toutes ces langues m'ont beaucoup aidé dans mes relations professionnelles, au point de vue écoute des gens, oui.
Et à l'université, vous avez fait le droit?
Oui, à l'université, j'ai fait le droit.
Et à l'université de Lubumbashi?
Université officielle du Congo, à Lubumbashi. À l'issue de mes études, à l'époque, quand on terminait les études de droit, on était mobilisés, on devait devenir magistrat. Et j'ai échappé à la nomination d'office comme magistrat.
Pourquoi ?
Parce que,
comment ça ?
Parce que, disons, on m'a pris à l'université. Et il se fait aussi qu'au même moment...
Alors, on vous a pris à l'université comme assistant ?
Comme assistant, oui. Puis je suis devenu chef des travaux, mais en même temps, à cette époque, je vous parle de 69, il manquait des cadres dans les entreprises, ce qui fait que il y a eu des pressions sur l'université pour que je travaille aussi pour l'entreprise privée. Et c'est ainsi que j'ai cumulé les fonctions académiques avec le cadre supérieur dans une entreprise de la place, quoi.
C'était un choix personnel de faire le droit?
Je ne sais pas le dire. Personnellement, j'aurais bien voulu faire polytechnique, devenir ingénieur, et je crois qu'on a ça dans le sang. Parce que mes enfants ne veulent pas faire le droit, et puis ils ont fait...
En parlant des enfants, vous êtes marié, faire de combien d'enfants?
Oui, j'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, et là-dedans, il y a 2 ingénieurs, une fille qui est kiné, le dernier garçon est à l'université.
Alors, on parlait de votre choix de faire le droit. Au départ, ce n'était pas le premier choix, vous vouliez faire la polytechnique?
Je voulais faire la polytechnique, mais il se fait que mon père était mort, j'avais 18 ans, et j'étais entraîné dans un procès de succession qui ne se terminait pas. Et disons, je voulais comprendre un peu ce qui se passait. En fait, je n'ai jamais été au tribunal pour plaider le dossier de la famille. Mais à l'époque, on appliquait la loi qui faisait que le parquet avait l'obligation de défendre la veuve et les orphelins. C'est ainsi que c'est le parquet qui a pris le dossier en main pour s'occuper de la succession. Mais moi, j'étais un peu curieux de savoir un peu ce qui se passait. Alors bon, j'ai fait le droit.
Vous avez pris goût et vous êtes dit pourquoi ne pas faire le droit et défendre ces gens-là qui seront peut-être dans la même situation que moi.
Écoutez, pas tellement, parce que j'ai découvert dans le droit de l'analyse et surtout dans l'histoire du droit, on voit un peu comment les civilisations ont évolué. Je vous parle de 1969. Il faut savoir que à l'époque, il y avait un grand vent qui soufflait sur le Congo. À l'époque, et on voulait que le Congo évolue et aille de l'avant. Et l'instrument numéro un pour développer le Congo, c'était d'avoir des lois nouvelles, des lois révolutionnaires qui pouvaient bousculer les habitudes passées, qui pouvaient booster l'économie, le social, etc. Donc, disons, le droit était vraiment une branche très très importante, très motivante, quoi.
Vous avez grandi dans quelles conditions? Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous avez perdu votre père à l'âge de 18 ans.
Oui, écoutez...
Mais avant la mort de votre père, vous avez grandi dans quelles conditions?
J'étais un fils à papa, qui j'ai vécu dans de très bonnes conditions, à tel point que, par exemple, à 18 ans, j'avais une voiture pour aller à l'école. Hein? Bon, disons, la mort de mon père a été un choc, mais qui m'a en même temps ouvert les yeux. Et depuis la mort de mon père,
la vie a changé.
La vie a changé, je suis plus sérieux et je travaille beaucoup parce que je sais qu'on ne peut compter que sur soi-même. Et ce qui fait que...
Le mode de vie change aussi.
Le mode de vie change aussi. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, je ne regrette pas la mort de mon père. Je crois que c'était même une bénédiction parce que s'il vivait... S'il avait vécu, j'aurais été peut-être dépravé. Mais comme il était mort, j'ai dû commencer à travailler dur et autre chose, quoi. Et mener une vie beaucoup plus réglementée.
Quel est le souvenir que vous allez plus marquer pendant votre enfance?
Il y a beaucoup de souvenirs. Mais il y a une chose que j'aime bien raconter, c'est que, vous savez, à l'école, il y a beaucoup de jeunes qui aiment tricher. Alors, il se fait que j'étais jeune parmi les élèves et j'avais comme voisin de pupitre un grand qui était assez bête et qui me demandait de lui montrer les résultats des interrogations. Et moi, je lui faisais des petits bouts de papier. Hein, et puis, le maître a vu qu'il y avait des bouts de papier qui circulaient entre moi et le grand garçon. Et le maître a cru que c'était moi qui copiais. Et j'étais battu parce qu'à l'époque, on tapait sur les élèves. J'étais accusé chez mon père qui m'a aussi tapé, comme quoi j'étais un tricheur, alors que je n'avais pas triché, c'était le contraire.
Mais vous n'avez pas expliqué que c'était votre voisin qui vous demandait les réponses.
Il n'y avait pas moyen de... On ne discutait pas à l'époque. Le maître vous tapait et le papa vous tapait aussi. Et à cause de ça, j'ai eu une frustration qui a fait que je n'ai plus jamais accepté de tricher dans la vie.
Est-ce qu'on peut vous croire lorsque vous dites, depuis ce jour-là, vous n'avez plus jamais triché dans la vie?
Oui, écoutez, je vous dis, je témoigne, c'est la réalité. c'est la réalité.
C'est quoi votre plat préféré, maître Marcel Yabili?
Ah, le plat préféré, je n'en ai pas, parce que...
Vous mangez tout
que... Imaginez-vous que j'ai une femme qui invente des plats tous les jours. Alors, ce qui fait que, bon, disons, chaque jour, il y a une découverte. Il n'y a pas que ça. Je fais aussi la cuisine moi-même. Uh-huh. Et j'invente des plats. Et alors, c'est difficile, disons, de dire que je préfère un plat puisque je peux en inventer. Bon. Je vous dis que chez moi, à la maison, chaque jour, nous avons un plat différent.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin, vous pouvez découvrir maître Marcel Yabili. Il est avocat, il est écrivain, artiste et promoteur d'industrie. Maître Marcel Yabili, on va parler de votre parcours professionnel. Vous terminez l'université, on vous retient là-bas comme assistant, mais entre-temps, vous travaillez dans une entreprise privée.
Oui, c'est-à-dire que, voilà ce qui s'est passé. À l'époque, on était parmi les premiers universitaires. Bon, pour vous situer un peu... Ma situation, je suis le 15e licencié en droit. Hein, donc on était très peu nombreux et il fallait, à l'époque, nous sommes en 69, Mobutu venait d'échanger les noms des villes, de Paulville est devenu Kinshasa, etc. Et dans les entreprises, on cherchait des cadres africains. Ce qui fait qu'il y avait une dizaine d'entreprises sur mon nom. Et c'est Tabac Congo qui a gagné parce que Tabac Congo m'a promis le salaire le plus élevé possible. Ce qui fait que j'ai passé 4 années à Tabac Congo comme, pas seulement conseiller juridique, mais je suis devenu secrétaire général, fondé de pouvoir, etc.
Et puis vous avez quitté pour quelle
raison? Et puis j'ai quitté pour aller au barreau. C'était un choix un peu personnel et même un peu forcé. Hein, mais je ne pouvais pas continuer à Tabac Congo. Hein, et donc je me suis engagé au barreau et en même temps que j'étais au barreau je faisais l'assistanat à l'université des publications, je suis devenu chef de travaux. Il fut un temps où côté universitaire je donnais des cours sans avoir fait de thèse de doctorat et c'est tout à fait permis hein, mais à condition que dans la faculté il y ait une grande majorité de vrais professeurs qui ont fait des thèses. Mais ce fait qu'à un moment donné, la proportion s'était inversée et les maîtres de conférences étaient plus nombreux que les véritables professeurs. Et j'ai eu le cas, j'avais fait des publications et je n'avais personne pour les corriger. Il fallait commencer à chercher des lecteurs loin de Lubumbashi et même en Europe. Et je me suis dit que non, je ne peux pas, moi, en toute honnêteté, rester dans une université où vous faites des recherches, vous faites des publications, il n'y a personne qui vous surveille parce que sur 10 enseignants, il n'y a que 2 qui ont le doctorat. Alors j'ai démissionné. Depuis.
Mais aujourd'hui, vous n'avez pas envie de défendre votre thèse parce qu'on a beaucoup de professeurs d'université quand même.
Non, écoutez, je vous parle bien d'il y a 30 ans. Écoutez, excusez-moi, les professeurs d'université.
Oui, je parle d'aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas envie?
Non, écoutez, à l'époque, j'avais eu même une bourse de la Rockefeller Foundation pour prendre un PhD aux États-Unis. Et non, je voulais le faire. Mais il se fait que la Rockefeller m'avait posé une condition. Quand vous rentrez au Congo, vous allez vous consacrer entièrement à l'enseignement universitaire. Et c'était impossible. Pourquoi? Parce que le salaire, entre le chef des travaux que j'étais et le professeur associé que j'allais devenir, la différence de salaire était de 50 zaïres. Ça ne valait pas la peine. Au barreau, comme avocat, j'ai gagné 10 fois plus. Alors pour des raisons pas matérielles, je vous rappelle encore une fois que j'étais orphelin et je ne pouvais pas oublier que j'avais des responsabilités pour quand même nourrir mes frères et sœurs. Et à l'époque, ils avaient grandi, ils étaient des adolescents. Et les études coûtaient plus cher, ils devaient aller à l'université.
Vous avez choisi les barreaux, vous avez démissionné de l'université.
Oui, c'est ça.
Pour faire les barreaux.
Et non. Je faisais le barreau tout en étant à l'université.
Oui, justement, vous avez décidé de démissionner, mais continuer avec le barreau.
Avec le barreau, c'est ça, oui.
Mais pourquoi vous avez été radié du barreau?
Écoutez, madame, j'étais radié du barreau pour une raison très très simple. Je vais vous la raconter. J'ai créé une usine. Et c'est une usine qui n'avait jamais existé. C'est une usine pour faire des chaussures en cuir. Pour l'investissement, la société dont j'étais associé hein, avait, n'est-ce pas, conclu un contrat de financement avec la Banque mondiale via la Sofidé. Mais la société était gérée par, il y avait un directeur blanc et congolais, mais la Sofidé a demandé que je signe le contrat personnellement pour montrer que le projet, j'y croyais en tant que promoteur du projet. J'ai écrit au barreau pour leur dire, écoutez, je ne gère pas la société, mais on me demande de signer. Qu'est-ce que je dois faire? Le barreau m'a répondu officiellement. Votre société est une société familiale parce que on n'était que 2 associés, il y avait moi et ma fille. Et le barreau m'a dit, mais vous n'avez pas à demander une autorisation, c'est une société familiale, vous pouvez même la gérer directement. On vous autorise à signer le contrat avec la Sofidé. C'est ainsi que j'ai signé le contrat avec la Sofidé. Quelques années plus tard, le barome est traduit en conseil de discipline. Maître Yabili, vous avez signé un contrat avec la Sofide, c'est un acte de commerce. Le commerce est interdit aux avocats. Et moi, j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas. Ce contrat, je l'ai signé avec une autorisation écrite du barreau. Comment osez-vous dire que j'ai commis un acte qui était contraire à la déontologie lorsque c'est vous-même, il y avait eu un changement de bâtonnier, lorsque c'est vous-même qui m'aviez autorisé.
Vous saviez quand même que c'était contraire à la déontologie.
Non, ce n'était pas contraire à la déontologie, puisque j'étais autorisé. Il suffit, c'était seulement signé. Je vous dis, ce n'est pas, je n'allais pas à la société signer des chèques. Non, c'était signer un contrat de financement. On modernisait l'usine. Il fallait que la société soit représentée par l'associé majoritaire. Et c'était seulement mettre la signature. Et puis après, ils ont fait ça eux-mêmes. Et alors, j'ai dit au barreau, écoutez, vous êtes de nouveau bâtonnier. Prenez mon dossier. Et vous allez voir toute la correspondance où j'ai demandé et où on m'a répondu comme quoi je pouvais signer et qu'il n'y avait aucun empêchement. À ce moment-là sort la décision. Invité à se justifier, Maître Yabili se limite à dire qu'il y a eu une lettre du barreau l'autorisant à signer le contrat avec la Sofide. Nous ne trouvons pas cette lettre dans son dossier, donc Maître Yabili est fautif et Maître Yabili est radié. Voilà, c'est une supercherie, c'est le plus grand scandale, madame, qui ait jamais existé. Je n'ai jamais voulu en parler.
Vous en voulez?
Écoutez, bien sûr, et pas seulement à moi, c'est le plus grand scandale. Si vous êtes la première à me poser la question, et je veux le dire ici, c'était inacceptable. Voilà un Congolais qui investit dans le pays, qui crée de l'emploi et qui est en même temps un avocat exemplaire. Mais je faisais mon travail d'avocat. Et des gens, n'est-ce pas, détruisent les preuves d'une autorisation pour signer un simple contrat. Ils prétendent que je n'avais pas l'autorisation, alors que l'autorisation, ils pouvaient me demander la copie.
Vous aviez une copie quand même?
J'avais une copie, mais le problème
était... Vous ne l'avez pas présentée?
Non, le problème était différent. J'étais dans une situation de départ du barreau, parce qu'il y avait eu l'année d'avant, j'avais été l'objet d'une machination, et on avait tiré sur moi devant le palais de justice. On a tiré sur moi, madame. J'avais eu un procès très difficile où il y avait eu de la corruption. Je n'ai jamais voulu faire de la corruption. Et on a envoyé un soldat pour me descendre. On a tiré sur moi au grand jour devant le palais de justice. Et pour moi, n'est-ce pas, depuis cette période-là, j'avais pris des distances avec le barreau et j'étais partant. Mais seulement, vous comprenez, quand les gens ne vous aiment pas, vous ne pouvez pas partir comme ça. Il fallait, n'est-ce pas, me chasser. Et alors, j'estimais que, bon, ils me chassent, tant mieux. Ils n'ont qu'à me chasser.
Comme ça, vous allez bien vous occuper de votre société?
Non, pas de ma société. J'ai travaillé quand même comme avocat, et sans aller au tribunal. Et, madame, les choses sont faites de telle manière que tous ces gens qui avaient monté cette machination ont disparu. Et maintenant, il y a une nouvelle génération d'avocats qui m'appellent pour que je fasse de la formation, qui m'appellent pour que je représente le barreau, qui m'appellent pour que je fasse des conférences. J'écris des livres. Et si j'ai repris maintenant avec la recherche scientifique, c'est parce qu'il y a eu une nouvelle génération.
Est-ce que ça veut dire que vous avez été réhabilité?
Non. J'ai été réhabilité par les faits. Parce qu'à aucun moment, madame, à aucun moment, pendant ma radiation, à aucun moment, personne n'a cessé de m'appeler maître. Que ce soit les autres avocats, ils ont continué à m'appeler confrère, et toutes les autorités du
Mais
pays...
Mais on peut continuer à vous appeler maître ou confrère.
Mais non, écoutez, madame,
vous êtes radié de...
Non, quelqu'un qui est radié, excusez-moi, quelqu'un qui est radié, n'est-ce pas, c'est une honte. Hein, et on ne doit pas le voir, il doit longer le mur. Mais moi, j'ai gardé la tête haute et que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du barreau, les avocats qui étaient restés, que ce soit au niveau des juridictions, tout le monde a continué à me respecter, et jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé la tête haute, et c'est ainsi que les gens racontent une toute autre histoire. Ils disent que, oui, j'ai été radié parce que je n'ai jamais accepté la corruption, et un jour, j'aurais insulté les juges publiquement, comme quoi c'était des corrompus. Ça, c'est l'histoire que les gens aiment raconter.
Et... tout ce que les gens racontent, c'est faux.
Mais, enfin, disons, c'est faux, mais disons que, bon, c'est une explication qu'ils aiment bien entendre.
Oui, alors, vous dites que vous avez été réhabilité par les faits. Est-ce qu'aujourd'hui, vous plaidez ? Est-ce que vous...
Non, je ne plaide pas, parce que il faut savoir ceci, hein. Et ça, je veux bien parler aux jeunes qui vont dans le métier du droit. Dans le métier du droit, il n'y a pas que être membre du barreau. Un avocat a un seul privilège, pas deux, un seul. C'est de pouvoir aller au tribunal, dire, voilà, Madame Kelly, eh ben, c'est moi l'avocat. Je vais parler en son nom, et tout ce que je vais dire, c'est comme si Madame Kelly le disait. C'est ça le privilège de l'avocat. Pouvoir représenter les gens devant le juge. Mais en dehors du juge, l'avocat est un simple juriste.
Est-ce que ça vous manque pas ?
Non, vraiment pas du tout. Non, vraiment pas du tout, parce que j'ai fait 15 années de barreau et je les ai faites vraiment avec grande satisfaction pour tout le monde, et il fallait bien que je tourne la page pour faire autre chose. Et la seule chose qui me manque, hein, jusqu'à présent, c'est que j'avais demandé à devenir juge pour montrer qu'on peut avoir des vrais juges qui ne sont pas corrompus et tout. Et bon, disons, ça ne m'est pas encore accordé, mais disons, ce n'est pas le barreau qui me manque, madame.
Voilà, on va souffler un peu, maître Marcel Yabili. Comment vous passez vos moments de détente?
Les moments de détente, il faut dire que je lis beaucoup. Lire beaucoup par rapport congolais moyen, hein, c'est-à-dire que bon, j'achète 2 à 3 livres par mois systématiquement, mais j'en lis 1 ou 2. Et alors, bon, j'ai des amis, je pratique un peu de sport.
Quel sport ?
Écoutez,
la
bon,
marche.
un peu de cyclisme, cyclotourisme, et puis bon, je faisais du golf aussi, mais malheureusement pour le moment, j'ai des problèmes de cataracte qui m'empêchent de voir la balle à une certaine distance, et j'ai un peu arrêté de ce côté-là. Et alors, depuis 2 ans, le loisir, c'est plutôt l'écriture, quoi. J'écris, pour le moment, j'écris 3 livres à la fois. Un livre scientifique, un livre de fiction, un livre d'histoire, quoi.
Et vous arrivez d'écouter de la musique, hein?
Ah oui, écoutez, la musique, c'est tout le temps. Et si vous venez à mon bureau, vous allez trouver une installation inimaginable, hein, parce que j'ai pu sortir ma collection de 33 tours. Et un jour, j'ai réalisé que j'avais 600 disques 33 tours.
C'est pas vrai.
Oui,
600
oui.
Disques 33
600
tours.
600 disques 33 tours. Et alors, j'ai dû acheter une platine, parce que maintenant, les platines, on les fabrique à nouveau. Et j'ai dit au bon Dieu, écoutez, je voudrais écouter un disque par jour. Vous me laissez vivre 600 jours? Et je les ai vécus.
C'est quel genre de musique
non,
écoutez, que vous
les,
écoutez
les, là, j'écoutais de n'importe de tout. Il y avait du jazz, du pop, etc. Pour le moment, au moment où je parle, bon, j'ai eu toute la collection des opéras de Maria Callas. Il y a 70 CD. Et j'écoute du Maria Callas pour le moment. Il y a 5 ans, c'était les 250 ans de la naissance de Mozart. Et là, j'avais acheté toute la collection des 170 CD de Mozart. Bon, j'ai écouté ça pendant des mois.
Apparemment, vous aimez beaucoup plus la musique étrangère, classique, que la musique congolaise.
Non, madame, ça n'a rien à voir. Par exemple, tous les jours, à 16h, j'écoute les variétés musicales sur la BBC, parce que c'est en fréquence modulée. Écoutez, ce n'est pas un problème de genre de musique, c'est un problème de qualité. Lorsqu'on a goûté à la haute fidélité, je vous dis, vous pouvez avoir de très belles chansons congolaises ou de très belles chansons coutumières, mais ça ne passe pas. Il faut vraiment de la très haute qualité. Mais j'achète chaque mois à part les livres, j'achète chaque mois un ou deux CD, et là-dedans, il y a toujours un CD africain.
Alors, quelle chanson vous ferait plaisir, Maître Marcel Yabili?
Ah, écoutez, madame, là, vous me demandez beaucoup. Eh bien, écoutez, bon, ok, voilà. On va mettre, écoutez, on peut mettre Happy de Pharrell Williams, parce que bon... C'est Radio Capi qui a lancé la chanson au Congo.
Et puis, oui. C'est pas votre génération ça.
Madame, excusez-moi. Si Pharrell Williams m'avait demandé de participer à son clip, je l'aurais fait.
C'est une très belle chanson, ça rend joyeux vraiment.
Ça rend vraiment joyeux et c'est très très bien.
On va demander à la technique de nous balancer la chanson Et puis de Pharrell Williams. Et on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Might seem crazy what I'm about to say.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Maître Marcel Yabil. Il est avocat, promoteur d'industrie, artiste et écrivain. Alors Maître Marcel Yabil, vous êtes également, je l'ai dit dans mon introduction, promoteur d'industrie. Vous avez commencé à nous parler de ça en début d'émission. Vous nous avez flashé juste un peu. Alors on va en parler maintenant. Promoteur d'industrie, quel genre d'industrie?
Écoutez madame, l'histoire est très simple. J'étais avocat, vous êtes indépendant, personne ne vous paye. Vous êtes malade et vous devez supporter vous-même les soins de santé. Et quand vous êtes malade, vous n'avez pas droit à un congé de maladie et vous n'avez pas de pension de retraite. Et un jour, j'ai eu cette révélation comme quoi j'étais avocat, je gagnais ma vie, mais je reposais sur rien. Il fallait absolument trouver un système pour économiser de l'argent. À l'époque, les dollars n'existaient pas, ne pouvaient pas circuler. On n'avait que le zaïre. Le zaïre, n'est-ce pas, s'est dévalué de jour en jour. D'où l'idée de mettre mes économies dans une activité qui pouvait sauvegarder le capital. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de monter une industrie familiale. Familiale pourquoi? Parce que c'est ma femme qui allait la diriger. Et c'était une industrie pour faire des chaussures en cuir. Ceux qui sont au Katanga connaissent les bottines Jalat. Eh bien, ces bottines Jalat, j'ai commencé à les faire ici.
Des bottines des meuniers de la Jekamine, je crois.
Oui, des bottines en cuir. Oui, mm-hmm. Oui. Et nous les faisions ici et de la même qualité qu'en Europe. Hein, et c'était quand même un défi fantastique qui a été reconnu par les autorités à l'époque parce que, à l'époque, n'est-ce pas, Mobutu était arrivé à exiger de la Jekamine que les entreprises valables soient reconnues. Et ils ont reconnu 4 entreprises au Katanga, 2 entreprises d'Européens et 2 entreprises de Congolais. Et dans les entreprises de Congolais, on était 2, il y avait KTB et moi pour la SIR.
Mais aujourd'hui, l'usine n'existe plus.
Écoutez, l'usine existe, c'est malheureux, mais l'usine ne fonctionne plus.
L'usine ne produit plus.
Non, elle ne fonctionne plus, disons. Elle ne peut plus fonctionner, madame. Nous avons eu des miniers qui se sont installés, qui ont chipoté dans les câbles. Le transformateur a sauté. Et j'ai demandé à la SNEL de remettre l'électricité. La SNEL me dit qu'ils sont incapables de remettre l'électricité, d'assurer un courant stable. Ça, c'est pour le fonctionnement. Et au point de vue production, eh bien, madame, nous sommes ruinés, en ce sens que, vous savez, c'était une PME. Notre capital a été investi dans des matières premières. Nous avons eu une grande commande de l'État, de la présidence de la République. Et ça fait près de 10 ans maintenant, la présidence de la République ne nous paye pas. Eh bien, il ne nous paye pas.
Une grande commande et quoi? Parce que vous me dites l'usine fabriquait des bottines qu'on appelait Jalat pour les miniers.
Mais nous avons fabriqué des bottines Rangers pour l'armée.
Ah, d'accord.
Mais en cuir toujours. Hein. Mais l'État n'a pas payé. Et l'État ne veut pas payer. Bon, alors on est là comme ça. On ne sait pas aller voler de l'argent pour réinjecter dans des matières premières, etc. Quoi. Donc, et puis l'État ne nous passe même pas commande. Il commande en Chine, il commande ailleurs. Et madame, c'est une honte parce que nous étions des promoteurs industriels pour des produits qui n'avaient jamais été faits ici. Et à l'époque, n'est-ce pas, il y avait Bata. Bata qui était un géant par rapport à nous. Mais Bata a disparu. Et pour le moment, nous sommes devenus la seule usine de chaussures en cuir. Et nous n'avons aucune commande et nos créances ne sont pas payées. Pourtant, quand on regarde le Congo...
Et même si vous avez des commandes aujourd'hui, comment vous allez fabriquer ces bottines sans argent puisque vous dites que vous êtes ruiné?
Non, écoutez madame, ce n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas ruinés parce que nous avons le capital confiance et nous avons des partenaires locaux et étrangers qui savent que nous avons toujours été très sérieux. Je vous dis madame que si j'ai des commandes aujourd'hui et la garantie des paiements, je suis certain que je vais avoir des matières premières à crédit. Imaginez-vous que, et c'est ça notre difficulté, nous avons eu des matières premières à crédit au moment où le Congo avait la côte 7 comme pays insolvable. Il n'y avait aucune marchandise qui pouvait venir au Congo sans crédit documentaire confirmé. Mais nous avons eu un crédit. sans donner rien comme garantie, parce qu'on savait que nous étions des gens de parole. Et ce capital confiance existe toujours, madame.
Et alors, vous attendez que l'État vous paye pour
Je n'attends plus rien du tout. Non, c'est-à-dire que l'État doit me payer, mais quant à refaire l'aventure de production de chaussures et tout, nous avons montré de quoi on était capable. Pour le moment, je suis lancé dans d'autres aventures, et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le pays. C'est ainsi que, par exemple, je suis dans la production littéraire, la production, je viens d'ouvrir un musée, etc. Ce sont des choses que je voudrais bien faire avant d'être vraiment dans le troisième âge.
Maître, vous êtes écrivain, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait plusieurs publications sur le droit.
Oui, écoutez madame, les vrais écrivains n'aiment pas ça. Hein? Les vrais écrivains disent qu'un écrivain, c'est celui qui écrit de la fiction. Hein? Et alors, ils m'appellent moi comme auteur. Donc, voilà, je suis beaucoup plus auteur qu'écrivain. J'ai publié pas mal de textes et de livres de droit. Alors on dit que je suis auteur et écrivain comme tel. Oui, écrivain comme tel, ça, disons, j'ai sorti un livre sur la pénétration chinoise au Congo et qui s'intitule Les géants d'Afrique, les géants d'Asie. Et là-dedans, je montre comment les Chinois sont arrivés en 1893, etc., etc. Et pour le moment, je suis en train de préparer une édition tout à fait populaire. C'est-à-dire que je vais sortir un livre qui sera trilingue, la version principale en français, et avec sur la page opposée une adaptation en swahili et en lingala. Ce sera une première, et voilà. Là, je serai écrivain.
Et on l'attend pour quand?
Écoutez, il est prêt à sortir. Je suis dans les dernières mises au point avec l'éditeur. C'est un éditeur français. Ils ont et en même temps, à cette occasion, je voudrais sortir le premier audio-livre. C'est-à-dire que on pourra lancer des livres en même temps sa version parlée en MP3.
On attend impatiemment, hein. Ça sera une première au Congo.
Mais tout à fait une première. C'est comme je vous ai dit, plutôt que de rentrer au barreau, plutôt que de faire des bottes, je m'intéresse à ce qu'on n'a pas encore fait.
Vous êtes aussi artiste?
Oui, écoutez, je suis artiste pas professionnel, je ne vis pas de l'art, mais j'ai quand même certaines sensibilités, notamment en photographie. J'ai réalisé 2 grandes expositions de photos, et pour le moment j'en prépare une. Eh bien, je voudrais montrer que avec le petit appareil de téléphone, eh bien, on peut quand même faire de la grande photographie. Ça, c'est le thème de ma prochaine exposition.
Et ça sera à Lubumbashi?
Non, écoutez, bien sûr, ça va partir d'ici, mais vous savez, maintenant, madame, on peut faire l'exposition sur une page internet, et s'il y a des centres culturels ou quoi qui veulent exposer, je suis prêt à partager.
Vous avez ouvert un musée privé?
Oui, madame, ça va vous étonner. Je viens d'ouvrir un musée familial que j'ai financé tout à fait entièrement. C'est-à-dire que, pour le moment, qu'est-ce qui se passe dans les familles? Eh ben, quand quelqu'un meurt, eh ben, on se bagarre la maison, ce qui fait que la maison disparaît puisque d'autres l'achètent. Et en même temps, on détruit tout le passé de la famille, parce qu'il n'y a personne qui se préoccupe à garder les photos, l'histoire de la famille et tout. On cherche l'argent, on cherche les briques. Et c'est là ma révolté, et c'est ainsi que j'ai décidé de faire un musée qui raconte le parcours de ma famille, mais en fait, ce n'est pas le parcours de ma famille, c'est le parcours de toutes les familles. Le musée, il existe maintenant. On vient de faire un deuxième pavillon qui va accueillir la mémoire des autres familles. Même vous, madame.
Alors,
ce si vous
venir avez... exposer les photos de ma famille.
Oui, ça veut dire. Oui, bien sûr. Si vous avez un message à donner, vous pouvez venir, madame, exposer les images de
et
votre famille.
Et c'est pas gratuit, j'imagine.
C'est tout à fait gratuit.
Ah bon?
Ce n'est pas commercial, et c'est ça le but. Hein. Ce n'est pas commercial. Je parle aux familles. Comment pouvez-vous accepter que dans une ville comme Lubumbashi, où il y a des gens qui ont créé cette ville il y a un siècle. Ces gens sont enterrés à Lubumbashi. Mais pour le moment, il y a de nouveaux venus. Ils sont riches et on va les enterrer sur les tombes des pionniers, de ceux qui ont créé cette ville. Et ça, je n'accepte pas. Et alors, l'idée du musée familial est de redonner de la dignité à tout le monde. Mais ce n'est pas parce que les autres sont des ouvriers qu'on doit maintenant aller nous faire enterrer sur eux. Et quand on trouve leurs ossements, on les balance. Hein, disons, ce sont toutes ces valeurs, n'est-ce pas, que ce musée va contribuer à rétablir.
Et donc, si aujourd'hui je voudrais immortaliser mes ancêtres, je peux venir avec des photos et vous allez me donner un espace où...
Écoutez, madame, vous pouvez venir, vous pouvez exposer des photos, vous pouvez exposer des films, des vidéos, et l'exposition durera aussi longtemps que ce sera nécessaire. Hein? Et éventuellement, on va aboutir, n'est-ce pas, à créer un musée où il y aura, n'est-ce pas, les souvenirs de votre famille. On va créer une vidéothèque et on pourra quand même... créer des vidéos pour Madame Kelly, etc. Et les gens pourront venir consulter dans 10 ans, 20 ans, 100 ans. Pas de problème.
Maître Marcel Yabili, parlons du monument devant le cercle Makutano. C'est votre œuvre.
Oui, écoutez, c'est mon œuvre. Hein. C'est-à-dire que ce monument, voilà ce qui s'est passé. Et c'est bien, madame. Merci beaucoup d'en parler. Parce que cette année-ci, nous célébrons les 90 ans de la Société Savante des Juristes. Quand il a fallu célébrer les 50 ans, personne ne voulait le faire. Et alors j'ai pris ce projet en main et j'ai fait venir ici les Kengwandondo, le ministre de la Justice, beaucoup d'autorités qui sont venues même d'Europe et tout. Et j'avais obtenu du maire de la ville le monument ex-Wangermé et... j'en ai fait le monument du droit.
Et ça symbolise le droit, c'est ça?
Oui, non, c'est-à-dire que le thème, c'est que le droit doit être au service de la nation. Ce n'est pas pour avoir raison pour soi, non. Le droit doit servir la nation parce que si on respecte le droit, eh bien, on respecte les prérogatives du voisin. Ce n'est pas seulement égoïste. Hein? Donc ça peut servir et c'est ce qui est écrit sur le monument, le droit doit être au service de la nation.
En fait c'est entre le palais de la justice et le cercle Makutano.
Oui.
L'endroit était bien choisi quoi, comme il y a le palais.
Non écoutez, c'était un endroit central de la ville parce que l'ancien monument était celui de monsieur Wangermé. Wangermé c'est le gouverneur qui avait créé la ville, mais il se fait qu'à un moment donné Mobutu avait demandé de détruire tous les monuments étrangers, mais il y avait encore un peu de mal qui était resté et c'était abandonné et j'avais demandé au maire de l'époque, M. Dikitele, qui acceptait, m'a donné le monument et moi je l'ai donné donc aux juristes.
Alors Maître Marcel Yabili, parmi vos publications de droit, il y a une publication sur la Cour constitutionnelle et sur l'organisation des tribunaux. Aujourd'hui se pose un problème sérieux en RDC où des dossiers traînent pendant des mois et des mois dans des tribunaux, faute des juges pour expédier ces affaires-là. Comment expliquer cela?
Oui, madame, écoutez, c'est un problème de mauvaise foi de la part des autorités qui se sont permis de bouleverser les juridictions. Là où il y avait un juge, on a dit que désormais il en faudrait trois, et ils n'ont pas nommé les trois dans tout le pays. Et alors, ça fait une année que les juridictions sont désorganisées.
Maître Marcel Yabili, on me signale qu'on n'a plus le temps. Vous avez un petit dernier mot à
Oui, écoutez, madame, je suis personnellement, je ne vais pas parler de moi, je voudrais plutôt parler de Radio Capi. En 10 ans, vous faites un travail tout à fait admirable, vous sortez des sentiers battus. J'aimerais bien, sincèrement, que après le départ de la MONUSCO, ce travail puisse continuer. C'est mon vœu le plus ardent.
Merci beaucoup, maître. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais maître Marcel Yabili. Il est avocat, artiste, écrivain et promoteur d'industrie. Merci à la rédaction de Radio Capi Lubumbashi qui m'a aidé à préparer cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission, donc Grand témoin, sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite des programmes sous la fréquence de la paix.